Vous êtes bien sur RFI, le journal, il est 23h à Paris, 21h en temps universel.
Théo Renaudon.
La deuxième phase d'échange de prisonniers s'est bien passée ce samedi entre Russie et Ukraine. 307 soldats et civils libérés de prisons de guerre au lendemain de 390 autres. Au total, jusqu'à un millier de captifs de chaque côté doivent être échangés d'ici demain. Les journalistes palestiniens qui le souhaitent doivent être évacués de la bande de Gaza. L'appel de sociétés de journalistes de RFI et d'autres grands médias français, 200 journalistes palestiniens ont été tués par l'armée israélienne depuis le 7 octobre 2023. Et puis au Mexique, grève des profs pour de meilleures conditions de travail. Mais avant cela, un mot de football. On rejoint Sofiane Amazian du service sport de RFI. Sofiane, vous êtes au Stade de France où vient de se terminer ce samedi soir la finale de la Coupe de France. Victoire logique, presque mécanique du PSG face à Reims, 3-0, le club parisien qui soulève son 16e trophée à une semaine de la finale de la Ligue des Champions face à l'Inter Milan. Sofiane, l'affaire était réglée dès la première période.
Bonsoir Théo, bonsoir à tous. Vous avez bien résumé, une balade de santé je dirais pour un PSG de gala ce soir au Stade de France, et je pense que vous l'entendez, les festivités sont en train de se préparer tout doucement pour remettre la coupe aux Parisiens. Les Rémois tout simplement n'ont pas vu le jour acculer, subissant les assauts répétés des Parisiens qui avaient promis de jouer cette finale à 100%. L'homme du match, eh bien, c'est Bradley Barcola, l'ailier français, qui a inscrit un joli doublé en l'espace de 3 minutes avant de se muer en passeur pour le prix Marc Vivien Fauvé 2025. Le défenseur marocain Achraf Hakimi, les Rémois n'avaient finalement pas vraiment la tête à cette finale, trop concentré peut-être sur ses barrages de survie en Ligue 1 contre le FC Metz. Le PSG qui aligne, on le rappelle, une équipe quasiment type ce soir, s'offre pour l'instant un doublé coupe championnat plutôt mérité, hein, 16e Coupe de France, vous l'avez dit, dans l'armoire à trophées des Parisiens. Alors tous les voyants sont au vert avant le match de la saison, cette finale de Ligue des Champions contre l'Inter Milan.
Sofiane Amazian en direct du Stade de France, merci à vous Sofiane. 6 missiles balistiques et 245 un drone Shahed, c'est ce qu'affirme avoir abattu l'armée israélienne dans le ciel de Kiev la nuit dernière. 8 missiles balistiques russes ont tout de même atteint leur cible. Bilan 15 blessés. Seules des sanctions économiques supplémentaires contre Moscou forceront la Russie à cesser le feu, soutient Volodymyr Zelensky ce samedi. Ça n'a pas empêché la deuxième phase d'échange de prisonniers entre Russie et Ukraine de réussir. 307 soldats et civils ont pu rentrer chez eux au lendemain de 390 autres. Au total, un millier de captifs doivent être échangés de chaque côté d'ici ce dimanche. C'est le plus important échange depuis le début de la guerre. Seul résultat concret des pourparlers d'Istanbul de la semaine dernière. À la fin de cet échange, la Russie doit remettre un document avec les conditions d'un cessez-le-feu à l'Ukraine. C'est ce qu'a promis la diplomatie russe ce vendredi. 9 enfants palestiniens tués à Gaza. Ils étaient dans la maison d'un couple de médecins à Khan Younes. La défense palestinienne le rapporte. Interrogée sur cette frappe, l'armée israélienne affirme que l'événement est en cours d'examen. Mais sur place, les frappes se poursuivent. Tous les jours, des journalistes palestiniens prennent des risques immenses pour nous raconter cette guerre dans une enclave interdite à la presse internationale. Depuis octobre 2023, plus de 200 d'entre eux ont été tués selon les chiffres de l'ONU. La Société des journalistes des grands médias français, dont celle de RFI, appelle les autorités françaises à tout mettre en œuvre pour qu'ils puissent être évacué. Rami Abou Ramous, triple lauréat du prix des correspondants de guerre de Bayeux, lui a choisi de rester à Gaza auprès de sa famille. Décision évidemment très difficile. Écoutez-le interrogé dans RFI Midi.
Bien sûr. Et c'était la pire décision pour moi, parce que j'en ai discuté avec mon épouse Sabah. Je lui ai dit, écoute Sabah, là apparemment nous on fait partie, nous sommes on fait partie des gens qui sont ciblés beaucoup plus que les autres, parce que c'est notre travail de journaliste. Donc je préfère m'éloigner un peu de vous, et comme ça, s'il m'arrive quelque chose, vous restez en vie. Et la réponse était immédiate, non, soit on vit tous ensemble, soit on meurt tous ensemble. C'est la pire décision qu'il faut prendre pour un père de famille. Il sait très bien qu'il est en danger et qu'il sait que à cause de lui, il peut perdre la vie de sa famille, sa femme et ses enfants. Mais ça fait partie du risque qu'on est en train de faire. Ça fait partie de notre résistance. Notre résistance, c'est rester sur place, rester en Palestine, rester à Gaza. Et en même temps, notre résistance, c'est aussi transmettre tous les crimes qui sont en train de se faire se passer à Gaza.
Un Pakistanais abattu par l'armée israélienne, par l'armée indienne, pardon, annonce New Delhi ce vendredi. Le Pakistanais a traversé la frontière et ne s'est pas arrêté en dépit de sommations, affirme l'armée indienne. L'événement survient alors que l'Inde et le Pakistan ont connu leur pire confrontation militaire il y a 15 jours. Plus de 70 personnes ont été tuées par missiles, drones et tirs d'artillerie. C'est une nouvelle étape de la contestation contre le pouvoir en Serbie. Plus de 1500 profs d'université déposent une pétition pour demander des législatives anticipées. Objectif, mettre fin à la crise politique qui secoue le pays. Depuis l'effondrement d'un toit dans une importante gare flambant neuve, des étudiants manifestent contre le pouvoir local accusé de corruption. Le président nationaliste a depuis changé de gouvernement, mais les opposants veulent plus et demande donc des élections anticipées. Dražen Marić est le professeur qui a lancé cette pétition pour qu'elle advienne.
Nous voyons les élections législatives anticipées comme le seul moyen de résoudre cette crise sociale et politique majeure sous le régime d'Alexander Vučić. Nous pensons qu'il a peur et nous le mettons au défi de le faire car c'est la seule façon pour la Serbie d'avancer vers un avenir meilleur. Nous allons certainement continuer les manifestations, mais d'une autre façon. Et nous allons aussi essayer de trouver une solution sur le terrain politique. Nous le ferons dans les prochains jours car tout le monde sait maintenant que le principal pas l'obstacle à la résolution de cette crise est le président Vučić.
Propos recueillis par Julien Chavanne du service international de RFI. Ils sont venus apporter leur soutien, eux, à un gouvernement décrié ces derniers jours. Des centaines de Libyens dans les rues de Tripoli ce samedi, venus en autocar jusqu'à la capitale du pays pour manifester leur appui à ce gouvernement, seule autorité de Libye reconnue par l'ONU. Ce vendredi, d'autres manifestants avaient manifesté et réclamé le départ de cette autorité et la tenue d'élections démocratique, exaspérée par des violences survenues il y a 10 jours entre milices à Tripoli qui ont fait 8 morts. Déjà 10 jours qu'ils se mobilisent. Au Mexique, les enseignants réclament de meilleures conditions de travail. À l'appel de la Coordination nationale mexicaine des travailleurs de l'éducation, ils ont organisé des opérations coup de poing toute la semaine, Marine de la Moissonnière.
Hier, ces enseignants ont bloqué en partie l'aéroport international de Mexico. Mercredi, c'est le palais national, le siège de la présidence, qu'ils avaient encerclé, empêchant les journalistes d'assister à la conférence de presse quotidienne de Claudia Sheinbaum. La veille, les manifestants avaient occupé les postes de péage des principales autoroutes qui connectent Mexico aux autres États du pays et avaient permis aux voitures de passer sans payer. Chaque jour, ces enseignants choisissent une nouvelle cible en grève illimitée. Ils occupent également en permanence le Zócalo, la principale place de Mexico. Leur revendication, un doublement de leur salaire et le retour à un système de retraite par répartition géré par l'État. La présidente mexicaine leur a proposé une hausse de 10% de leur salaire et une semaine de vacances supplémentaires. Insuffisant, ont répondu les grévistes qui maintiennent la pression. Claudia Sheinbaum commence à perdre patience. Elle a annulé hier la réunion prévue avec les représentants de la coordination nationale des travailleurs de l'éducation, les renvoyant vers les ministres de l'éducation et de l'intérieur.
Et la palme d'or du Festival de Cannes est remportée par le réalisateur perse-iranien Jafar Panahi pour son film Un simple accident. Film tourné clandestinement en Iran, le réalisateur a connu les geôles de la République islamique qui est donc maintenant récompensé pour ce conte moral, récit de désir de vengeance d'un ancien détenu iranien qui ira jusqu'au pardon. Jafar Panahi a plaidé pour la liberté dans son pays en réaction ce samedi à sa palme d'or. Vive émotion, rendez-vous compte, c'est la première fois depuis 15 ans qu'il arrive à venir au Festival de Cannes. Interdit de quitter son pays la plupart du temps, Sophie Pouzrat y reviendra plus en longueur dans 50 minutes. Vous la retrouverez dans 24 heures en France.